pas mal comme guitare, celle-là. Elle est pas mal comme guitare. Elle est pas mal comme guitare. Elle est pas mal comme guitare. La guitare. La guitare. La guitare. Elle est pas mal, hein. Tu la veux? Tu la veux, la guitare? Tu la veux? Tu la veux, la guitare? Tu la veux, la guitare? Il est pas mal, ce marteau, là. Là, c'est le marteau, là.
Juste pour remarquer que les hommes en bleu se la racontent beaucoup plus quand il s'agit d'expulser des familles de sans-papiers que quand il s'agit de s'emplâtrer des pompiers équipés et entraînés. Allez les gars, là vous êtes à 15, le million. C'était Guillaume de Paris.
Salut Daniel, je suis sapeur-pompier, professionnel, et je suis scandalisé par l'attitude de... des gens qui sont censés être mes collègues de travail, mes camarades, et qui sont montés sur Paris pour manifester, demander peut-être un droit qui a été soi-disant acquis, puis qui a été retiré par la suite, mais s'attaquer aux forces de l'ordre, casquer, avec les cuirs, jeter des fumigènes, des boules de pétanque, c'est proprement scandaleux. Ce n'est pas ce que l'on attend de l'attitude d'un sapeur-pompier. Donc je me désolidarise complètement de ces voyous, et je m'excuse auprès de la population pour cette attitude qui est loin de l'image que l'on pourrait attendre d'eux. Voilà, je suis un peu écœuré, et dire que je travaille tous les jours avec eux, enfin en tout cas avec certains. Ciao.
Une auditrice de la gauche ne veut pas de Clémentine Autain parce que le candidat doit avoir de la carrure. Je ne sais pas si c'est d'un déménageur qu'elle parle, mais moi, en tant qu'adhérent d'un parti de la gauche de gauche, l'envergure et la stature de Clémentine Autain pour incarner la gauche antilibérale me vont bien. Elle est militante engagée depuis 15 ans, cofondatrice de l'association Mixcité, animatrice depuis le début de l'association Copernic, membre de la rédaction du mensuel Regard, et élue adjointe au maire de Paris depuis 2001. Excusez du peu, mais c'est une femme. C'est Régis, de Nîmes.
Eh ben moi, je veux vous dire que je suis très très fière de voter pour Ségolène Royal. Depuis 1995, j'ai toujours voté pour l'extrême gauche, et je me suis rendu compte que ça nous avait emmenés dans une impasse. Et moi, j'ai pas envie de rester dans une impasse. Et j'aime mieux prendre le risque, parce que c'est un risque, de travailler avec Ségolène Royal, et on verra bien. Et j'en suis vraiment très, très contente.
Salut Daniel, merci pour tes émissions. Et je voudrais signaler à nos chers auditeurs que entre Ségolène, qui est pour le changement, et quel changement, on se demande, et Sarkozy, qui est pour la rupture, quelle rupture, quand ces deux-là prétendent changer les choses et continuer sur le même système d'une économie ultralibérale. Je voudrais aussi poser une dernière question quant à Ségolène. Qu'est-ce que c'est que sa démocratie participative quand elle-même voulait virer Emmanueli lors du référendum quand il voulait voter non et que tout le monde du Parti Socialiste voulait faire voter oui? Quelle démocratie pour demain, je vous le demande. Et en attendant, ne répondez pas à Big Brother qui nous annonce Sarkozy contre une Ségolène. Le résultat pourrait être différent, mais les choses ne changeront pas beaucoup. Hélas, il faudra peut-être une révolution, qui sait. Allez, salut.
Je vous écris pour vous dire combien j'ai été touchée et intéressée par votre reportage qui vient de se terminer maintenant. On est mardi, donc je vous appelle à 16h. La première fois que vous avez vu la mort. Bravo à la personne qui a fait le documentaire. On fallait interviewer les différentes personnes. Ça serait intéressant justement de l'entendre dans d'autres pays et surtout dans le passé. Mais là, pour les interviews, ça sera difficile. Merci au témoignage du Colombien en dernier et de l'avocat. C'était extraordinaire. Et la sinistre bouteille du condamné, la bouteille de rhum du condamné, et le fait qu'il ait reçu ses regards qui étaient destinés à l'avocat principal absent, évidemment, enfin ça peut se comprendre, et qui a rejeté cela sur un jeune avocat de 26 ans, qui doit maintenant en avoir un petit peu plus, mais que cette image n'a jamais quitté. Sur le conducteur de métro, je comprends qu'il ait eu faim à la fin de quand il a après avoir involontairement évidemment aidé au suicide de quelqu'un dans un tunnel. Par contre, il posait la bonne question de savoir si c'était plus facile de se suicider ou de vivre. Dans certains cas, on peut comprendre que évidemment ça fait des ordres dans le métro, et si on multiplie par le nombre de voyageurs en retard, et puis par aussi l'angoisse qui poursuit les conducteurs à vie, il paraît que parfois dans le métro ils appellent aussi les morts des Dalton, vu la façon dont ils les trouvent coupés, parfois en trois morceaux. Mais bon, disons que les morts par suicide, c'est encore une chose très particulière. Voilà. Encore merci beaucoup pour cette émission et pour toutes les autres. Au revoir.
Merci de votre attention, en tout cas. Hein, ça, c'est formidable, la radio, quand vous inventez ce que vous écoutez, quand vous vous appropriez ce qu'on vous propose. Ça, c'est toujours des moments heureux. C'est Sophie Le Chevalier qui est la réalisatrice de ce qui a été la réalisatrice de ce... oui, vous avez raison de dire documentaire, parce qu'elle est effectivement documentariste. Aujourd'hui, on va s'envoyer en l'air, si vous voulez bien, ensemble, mais avec beaucoup d'inquiétude. C'est-à-dire qu'on va... Vous savez, quand vous allez à Roissy, vous prenez l'avion, etc. Enfin, tout le monde ne prend pas l'avion à Roissy. Il y en a quand même 80 000 qui, chaque jour, restent au sol. Autrefois, on appelait ça les rampants. Et parmi ces... personnel au sol, comme on dit, y a eu des histoires récemment avec ceux qui touchent à nos bagages, qui mettent la main sur nos bagages. Et vous savez qui sont ces gens qui mettent la main sur nos bagages? Eh bien, ce sont des... Oh, beaucoup sont musulmans. Musulmans. Voilà. Et donc, ça a donné lieu à un livre fameux de monsieur Philippe Devilliers, dont on reparle là, il a démêlé avec sa famille, enfin des problèmes un peu familiaux, mais là il n'en avait pas, il est allé dénoncer ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire les terroristes, voilà, c'est les terroristes qui mettent la main sur vos bagages, parce qu'entre le musulman et le terroriste, il n'y a pas, vous savez, oulou, il n'y a pas un mur bien étanche, hein, il faut donc faire très attention. Et voilà, vous connaissez un peu l'histoire, ça a donné lieu à des licenciements d'un certain nombre de travailleurs et d'ouvriers et de salariés qui travaillent sur cette immense plateforme de Roissy, pas de licenciement direct, mais de suppression de badges, parce qu'il faut évidemment un badge pour aller travailler dans ces zones très sensibles. Alors avec Pascal Riello et Dila Tebi, on s'est penché sur cette affaire de plus près, par le vécu, par le quotidien. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ici, d'être un barbu soupçonné? Malheur au barbu, ce sera notre émission aujourd'hui, notre reportage aujourd'hui, après les messages que voici, parmi ceux que vous avez laissés, comme chaque jour, dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Aujourd'hui, sur mon lieu de travail, un collègue africain, alors que nous attendions dans la rue l'ouverture des portes à 14h, a été contrôlé par la police. Comme il n'avait pas ses papiers, il a été emmené au poste, menotté. Un chef de service est venu, m'a-t-on dit, pour expliquer qu'il était détenteur de papiers, puisqu'il y a un contrat chez eux, mais les hommes en bleu n'ont rien voulu entendre. Ça s'est passé aujourd'hui à Paris, et c'est un exemple de plus qui confirme la règle. Police partout, justice nulle part. Voilà, je suis de Paris, je vous embrasse tous. J'ajouterai juste que mon père aimait beaucoup cette émission. Tenez bon. Au revoir.
Jean-Jacques de Charleville. L'étau semble se resserrer sur les enfants pourtant scolarisés de familles sans papier et qui risquent même d'être arrêtés dans les écoles et d'être expulsés. Enseignants sans frontières appelle dans l'urgence des sympathisants à manifester ce mercredi 22 devant toutes les préfectures, à 16h ou à 17h, voire sur leur site RESF. France, terre d'asile, pays des droits de l'homme, de l'histoire ancienne.
Le mercredi 22 novembre, à Brest, Café de la Plage, 20h. Alors tous les auditeurs, là-bas si j'y suis, et les autres, s'ils ont envie, ils peuvent venir discuter avec nous. Voilà, tout simplement. Au revoir.
Bonjour, une petite chanson. Dans la vie, il faut s'en faire. Moi, je ne fais que ça. Les petites misères sont des vraies galères. Et ça s'arrête pas. Salut Daniel. Isa de Nantes.
Moi, ce qu'on me reproche, je ne sais pas. On a juste dit que j'étais en danger, et sans preuve, sans explication.
J'habite dans une banlieue, je ne peux pas voir, je suis musulman.
Est-ce que vous faites la prière? Est-ce que vos enfants ils parlent l'arabe? Est-ce que vous aimez la France? Ah ouais, c'est bien ça. On est français, ils nous posent la question si on aime la France.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ben, si j'y suis avec Pascal Le, Pascariello et Dila Tebi, malheur au barbu.
Flight number 2, arriving from Tokyo.
Toi, tu travaillais depuis combien de temps à l'aéroport?
Là, j'allais sur ma 8e année.
C'est une grosse affaire, il y a plein de monde, plein de journalistes. T'en as déjà vu autant?
Ah non, la première fois. Déjà, il y a Zizou qui va venir.
Zidane. Non, il y a du monde. Qu'est-ce que ça te fait d'être là, toi, aujourd'hui?
Ça me choque. C'est la première fois que je vais insister là.
T'as jamais eu de problème avec la police, toi? C'est la première fois que tu viens ici?
Jamais eu de problème avec la justice, rien. C'est la première fois que le casier, il est vierge. Et là, on est là pour avoir plus d'explications. Ce qui nous reproche, quoi.
Toi, qu'est-ce qu'on te reproche? T'as reçu, comme tes collègues, une convocation? T'as passé un entretien à l'aéroport?
Moi, ce qu'on me reproche, je sais pas. On a juste dit que j'étais en danger. Et sans preuve, sans explication.
Pourquoi? Parce que t'as une barbe.
J'ai pas eu confrontation avec la police.
Est-ce que toi tu te sens visé en tant que musulman? Est-ce que tu sens que c'est ta pratique de l'islam qui est visée?
D'après les questions qu'ils ont posées à mes collègues, c'est l'islam. Parce que les questions sont basées que sur l'islam. En plus, sur les 5 piliers de l'islam. Est-ce que vous avez été à la Mecque? Est-ce que vous faites la prière? Est-ce que vos enfants ils parlent l'arabe? Est-ce que vous aimez la France? Ah ouais, c'est bien ça. On est français, ils nous posent la question si on aime la France. J'ai la carte d'identité française, je suis né en France, jamais voyagé.
Jamais voyagé?
Jamais. Moi, je suis là pour savoir ce qu'ils me reprochent.
Est-ce que tu penses que c'est parce que, tout simplement, toi, t'as 31 ans, t'es jeune, et t'as une grosse barbe. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien?
Non, parce qu'il y en a, vous voyez ici, là, qui sont parmi nous, il y en a qui portent pas la barbe. C'est l'islam qui est visé. C'est l'islam, globalement, qui est visé.
C'est comme ça que tu le vis, hein?
Ouais, c'est comme ça. Regardez, là, la plupart, ils sont pas là-bas. On est que deux.
Mais ils sont tous musulmans.
Voilà, ils sont tous musulmans. Il y a même un Français de souche, mais il est musulman. Quelle coïncidence.
À Roissy, c'est l'Ascension. C'est l'Ascension. On monte au ciel comme le petit Jésus et sa maman, la Vierge Marie. C'est l'Ascension. Mais attention. Ils sont là, tapis, noirs, barbus, rampants, grouillants. Ils sont sous terre, sous la piste. Ils ont creusé des galeries pleines de mosquées. Attention, ils s'approchent de vos bagages, de vos affaires, de votre intimité. Le petit souvenir des Maldives, la poupée, ils s'en emparent. Eux, ce sont les mahométans, les islamistes, les terroristes. Ils s'approchent de l'avion. L'avion. Alors que vous êtes dedans, innocemment, votre vieille mère, vos chers petits-enfants. Vous souriez, fantasme, délire ou transe qui serait assez gonflé pour exploiter de tels délires. Quelqu'un comme Philippe de Villiers, disons, ne mangerait pas de ce pain-là, de ces fantasmes-là, pensez-vous. Il s'est appuyé sur des documents secrets, officiel, il dénonce, et qu'est-ce qu'il dénonce? Que l'islam est le terreau de l'islamisme, et l'islamisme est le terreau du terrorisme. La preuve, par Roissy. Qu'est-ce qu'il y a à Roissy, sous les pistes? Des mosquées. Des quantités de mosquées, avec des barbus qui préparent la destruction de l'Occident. Rien d'électoraliste là-dedans, pas de racisme, bien au contraire. Simplement étrangers, dehors, immigrés sans papier, dehors, racaille. Ah non, racaille, ça, c'est l'autre. ça c'est l'autre. Ils sont de chaque côté de la gamelle de Le Pen à essayer de grignoter, de piquer dans cette sacrée gamelle. Ils oublient que on préfère toujours l'original à la photocopie, mais ils essayent quand même. Ils ont essayé, sauf que là, ils sont allés un tout petit peu trop loin. Et bien, ça a donné l'affaire des bagagistes de Roissy, une affaire qui n'est pas terminée. Mais il faut comprendre quand même qu'il y a de quoi nourrir peurs et fantasmes. En septembre 2001, Madrid 2004, Londres 2005, traumatisme répété, nous voici hantés par les questions de sécurité. Les terreurs les plus endormies remontent à la surface. Et il est alors bien difficile de raisonner calmement, d'éviter les rumeurs, de limiter la peur. Et c'est là l'ambiance bénie pour toutes les démagogies. Exploiter les peurs, jouer des amalgames, montrer le bouc émissaire, dénoncer le laxisme, se poser en homme fort, ferme, protégeant les petites gens, les honnêtes, les silencieux, les sans-parole, les vulnérables. C'est une vieille ficelle, c'est un piège inoxydable. Et on accepte alors tout. Souvenez-vous, le Patriot Act. Souvenez-vous, cette phrase incroyable au lendemain du 11 septembre. Nous allons vous mentir. Nous allons vous mentir, dit George Bush, en 2-3 jours après. Et chacun approuve. Car quoi? C'est la guerre du bien contre le mal, contre la terreur, contre le terrorisme. L'ennemi est alors partout. L'ennemi est parmi nous. C'est la guerre. Le droit attendra. Les contrôles se multiplient, les écoutes, les arrestations. La torture est un mal nécessaire. Eh bien, c'est ce qui s'est passé chez nous aussi, bien sûr, la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme. Et ça a pris à Roissy un tour tout à fait particulier, tout à fait délirant. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas comment au juste prévenir le terrorisme. Alors, on a des tas de systèmes de contrôle, mais qui échappent au droit et qui ne respectent pas nécessairement les libertés individuelles comme les libertés collectives. La question, c'est qui contrôle le contrôleur? C'est une des questions parmi lesquelles nous partons aujourd'hui dans ce reportage jusqu'à 16h. Dans la base, si j'y suis, malheureusement.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi?
N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi? De la bavure
et décollé au mur,
et dans ce tas d'ordures,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi,
y aura-t-il les langues de bois, les selles, en tout cas y en aura, du sang qui coule y en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi? Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi, y aura-t-il les langues de bois, des ciels, en tout cas y en aura, du sang qui coule y en aura pas.
Où ça ne finira?
Mais tout ça,
c'est entre toi et moi.
T'es qui? Dis-moi si t'es pas toi. Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui.
À la machine à café.
Ouais, on a la machine à café et là, donc on veut vraiment savoir ce qu'aujourd'hui on nous reproche sérieusement.
Vous avez entendu parler du document du livre, hein, de monsieur De Villiers?
Les conneries de Roissy, ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut ressortir. Le deuxième livre qu'il faut sortir, c'est les conneries de Roissy, quoi. Parce que c'est vraiment des conneries. Quand on nous parle de mosquées de Roissy, en fait, des mosquées, les pistes de décollage truffées de mosquées, faut arrêter. Il y a même pas de passage sous les pistes. Donc, à la limite, faudrait nous trouver où est-ce qu'ils sont les passages, quoi. Et les mosquées, surtout. Donc, et aujourd'hui, en fait, c'est la suite des événements. Aujourd'hui, on se retrouve, au TGI de Bobigny pour dire que De Villiers, il a raconté des conneries, mais on en a pris quand même acte. Mais nous, aujourd'hui, on a le pressentiment d'une grosse injustice. On a trouvé des boucs émissaires pour dire que De Villiers, à quelque part, il avait un peu raison, quoi. Donc, mais les boucs émissaires, c'est nous aujourd'hui. En fait, voilà, quoi. Et aujourd'hui,
ça fait combien de temps toi que tu travaillais?
Bah là, enfin, ça fait
à l'aéroport.
Ça fait 10 ans. Donc 10 ans que je suis sur l'aéroport.
Et voilà. T'as quel statut?
En fait, CDI. CDI, donc embauché depuis 10 ans. En fait, je suis rentré, j'avais 2 mois d'essai, donc embauché depuis 10 ans. Et aujourd'hui, en 10 ans, j'ai quand même créé une famille, donc des enfants et tout. Et aujourd'hui, je me retrouve, merci l'État français, en fait.
Tous les deux, donc là, c'est la pause café. Pareil, même situation. Plus de badge.
Plus de badge. Pareil, j'ai plus de badge aussi.
Ça fait combien de temps que vous travaillez pas, qu'on vous l'a retiré le badge, pour toi?
Bah là, ça fait maintenant 2 mois.
Ça fait un mois.
Un mois à peu près, ouais. 4 semaines. Ouais.
Et depuis, vous avez quoi comme argent? Vous avez le salaire qui vient? Vous avez les ACDI, quelque chose?
Non. Rien, l'employeur, si tu ne travailles pas, il ne va pas te payer comme ça. Hein.
Non. Vous travaillez pour qui directement? Pour l'aéroport ou alors pour des sociétés, des sous-traitants?
Des sous-traitants.
CBS.
CBS?
CBS, oui.
Alors voilà, CBS et Connecting Baggage Service, c'est l'une des entreprises, des multiples entreprises, des nombreuses entreprises présentes dans la zone de Roissy. 80 000 personnes travaillent chaque jour dans cette zone, le plus grand aéroport français. Ça va du pilote de ligne au manutentionnaire. 750 entreprises qui travaillent là, qui sous-traitent, qui font toutes les activités nécessaires au fonctionnement de cet énorme aéroport, ce qui fait évidemment de Roissy la plus grosse zone d'emploi de la région. C'est-à-dire, c'est quoi la région? C'est la Seine-Saint-Denis, c'est la Seine-et-Marne, c'est le Val-d'Oise qui se rejoignent là et qui fait de Roissy le plus gros employeur de cette région, qui est frappé par un chômage plus élevé qu'ailleurs en France. On estime à de 14 à 15% le chômage dans cette région. Alors, il y a donc des grosses entreprises comme les aéroports de Paris avec 5 000 collaborateurs, Air France 11 000, mais le reste, c'est donc cette multitude de petites entreprises. Depuis le 11 septembre 2001, évidemment, sécurité, prévention, contrôle de toutes sortes, il devient difficile de se faire embaucher. Pour cela, il faut montrer pas de blague, pas de casier, un permis de conduire, des rudiments d'anglais, mais ça reste très dur. Pour 2005, pour 5400 offres d'emploi, il y a eu 20 000 candidats. Quels sont les obstacles à l'embauche selon ceux qui se font jeter, mais aussi ceux qui y réussissent à y travailler? Il y a une discrimination plus ou moins rampante. Le nom peut être aussi un handicap. L'adresse de résidence, mieux vaut être un Mohamed de Meaux qu'un Mohamed de la Courneuve, disent ceux que nous avons rencontré. Et la grande affaire, c'est d'obtenir le fameux badge. Le badge qui autorise à entrer et à circuler dans la zone ultra sensible. Sans badge, pas de boulot. Perdre son badge, c'est perdre le boulot. Et donc, je le disais, depuis le 11 septembre, au nom de la sécurité et la lutte antiterroriste, les pouvoirs publics n'ont plus de compte ou peu de compte à rendre dans l'attribution ou le retrait des badges. À peu près n'importe qui peut en être et n'importe quand peut en être privé. C'est-à-dire, je le répète encore une fois, perdre son boulot du jour au lendemain, c'est l'arbitraire, il n'y a pas d'explication. Et au nom, évidemment, de la sécurité. On peut tout à fait le comprendre, mais on comprend. Il y a une question qui se pose, évidemment, je le disais, c'est qui contrôle le contrôleur. Alors, j'ai évoqué le livre fameux de Philippe de Villiers, qui est sorti sur les mosquées de Roissy, un livre qui a été jugé quand même par pas mal de gens, à commencer par ceux qui travaillent sur dans cet espace-là, comme un véritable délire anti-islamophobe. Or, tout le monde pensait à peu près ça, mais n'empêche que le bouquin a eu une certaine suite. En tout cas, il y a eu au mois d'août 72 personnes qui se sont vues retirer leur badge parmi des bagagistes, des manutentionnaires, des personnes du personnel de sécurité. Quoi de commun entre ces 72 personnes ? Eh bien, ils sont tous de confession musulmane. C'est drôle quand même, hein, 72, tous sont musulmans. Alors, et pas mal d'entre eux sont syndiqués. Et oui, on peut être musulman et syndiqué, ça peut étonner certains, mais c'est quand même possible. Du coup, la CFDT a déposé une plainte contre X pour discrimination et 9 bagagistes ont entamé cette procédure. Et le mercredi 7 au tribunal de Bobigny, eh bien, on y était avec Dila et Pascal Pascariello pour essayer de comprendre ce qui se passait.
Là, c'est une grosse claque. Aujourd'hui, à la limite, on nous met en examen. C'est mieux.
Ouais, plutôt, parce que si t'es un individu dangereux,
plutôt que de nous dire vous êtes dangereux pour la sûreté de l'aéroport. Dans ces cas-là, qu'on nous incarcère, qu'on nous mette en garde à vue et qu'on nous mette en examen pour terroriste,
en fait. Donc là, c'est ce que tu demandes aujourd'hui. Soit une mise en examen ou soit vous mordez mon bâton.
Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas être à moitié coupable. Ça existe pas. D'accord? La justice, c'est on est coupable ou on est innocent. On peut pas être à moitié. Donc c'est ça le vrai souci. Et le deuxième souci, c'est que aujourd'hui, avec un coup comme ça, c'est double peine. La première peine, c'est accusé d'être un danger. Et la deuxième peine, c'est plus de boulot. Donc c'est quoi? Elle est où la liberté? Elle est où? La légalité, la liberté, la fraternité? Moi, je vois pas. Peut-être qu'on m'imagine avec une barbe, je sais pas. Peut-être qu'on m'a dessiné, peut-être qu'on a fait des portraits robots avec une barbe. Donc c'est ça la question, la vraie question. Ou alors, bon, parce que je m'appelle Mouloud ou Ali ou Mokhtar ou Mohamed, quoi.
Est-ce qu'on t'a posé, toi, une question pendant l'entretien comme « Est-ce que vous aimez la France ?»
On me l'a posé, oui. « Est-ce que vous aimez la France ?» Choquant. Donc, en fait, on trouve même pas les mots. Il n'y a même pas de réponse à une question comme ça. Elle est tellement ridicule qu'on ne trouve même pas la réponse.
On t'a posé d'autres questions par rapport à l'islam ?
Ouais, si je pratiquais, si je faisais la prière, si...
Et alors ?
Je suis pratiquant et je suis fier de pratiquer. Et aujourd'hui, c'est ça, je pense que c'est ça la qualité de la France. C'est un pays libre. Et aujourd'hui, on a le pressentiment que c'est fini, ça. Donc je sais pas si c'est le gouvernement, si c'est aujourd'hui ces dirigeants qui pratiquent en fait une politique, on va dire, sous-marine, mais on comprend pas en fait. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, les événements, peut-être, je sais pas, dans le monde entier, donc d'après le 11 septembre 2001, on supposerait que maintenant, ils feraient peut-être plus attention à nos origines et à notre pratique en fait.
Vous avez quel âge ?
44.
Pareil ?
Pareil.
En CDI ?
En CDI, pareil, ça fait 6 ans.
On vous a posé la question aussi, si vous êtes musulman ?
Oui, oui. Il pose les questions, les questions sur l'islam, c'est tout.
Vous êtes en France depuis combien de temps ? Vous êtes né en France ?
Ça fait 10 ans, non. Je ne suis pas né en France, ça fait 10 ans que je suis en France.
Vous avez une famille ici ?
Oui, oui.
Vous êtes marié, vous avez des enfants ?
Marié, avec des enfants et tout. Et là, on est dans la galère. Prévu de travail, on ne travaille pas. C'est qui va payer les factures ? C'est qui va nourrir les enfants ? On ne sait pas, on va où ? On est français sans être français.
Vous avez été naturalisé.
Naturalisé, oui.
Mais comment on fait pour savoir que, par exemple, vous deux, vous êtes musulmans ?
Moi, je pense qu'ils ont basé sur les prénoms. Les noms et les prénoms. Les
deux. Votre prénom, c'est ?
C'est Mohamed. Mon prénom et ma religion, c'est tout.
Et c'est tout, selon les bagagistes présents lors de ce procès. Cette audience au tribunal de Bobigny. Le point de vue de Philippe Decrulle, secrétaire adjoint de la CFDT Air France.
Nous, en tant que syndicat, on voit surtout le côté salarié. Et effectivement, si vous n'avez pas de badge, vous ne pouvez pas travailler. Et ça, c'est anormal aussi. C'est-à-dire que pour avoir un licenciement, il faut une raison juste et sérieuse. Et on a l'impression que le préfet, il nous sort des trucs de son chapeau au fur et à mesure pour amuser le public. La sûreté sur les aéroports, c'est nécessaire, mais on fait pas n'importe quoi pour autant. Et moi, je vais représenter la CFDT, notamment auprès de la Direction Générale de l'Aviation Civile, dans toutes ces affaires de sûreté. Et on a insisté pour dire, mais attention, vous êtes en train de jouer aux apprentis sorciers. Tout ce que vous allez faire, c'est liberticide.
Et donc voilà. Vous, la CFDT, tous les syndicats, ont soutenu les salariés et ont déposé notamment une plainte pour discrimination. C'est ça, une plainte contre X ?
La CFDT a déposé une plainte contre X pour discrimination qui permet, si effectivement la justice condamne le sous-préfet, voire plus, le préfet, voire au-delà, de faire annuler l'ensemble des décisions. Et nous, on demande à ce qu'ils soient aussi réhabilités dans leur honneur. C'est très important, je pense, parce que si on gagne et qu'ils retrouvent leur travail, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'on va pas les voir comme des brebis galeuses? Est-ce que leur avancement va pas être compromis, leur promotion, etc.? On a un état-machine qui broie les gens, et finalement, pour des affaires de basse politique peut-être, eh bien on a sacrifié des salariés.
Je suis français, moi, monsieur. Je parle français. Vos papiers. Vos papiers. Le challenge, le looks, race, freelance sur mon attaché caisse, photo finish de baby blues, un peu loser, c'est mon job. Sans checkpoint, sans warning, ça a du punch, made in Japan, c'est un gag. Drugstore pour pharmacie, pressing pour nettoyeur, fast-food pour vie meilleure, français de flashback, français de France. Vos papiers. Building pour gratte-ciel, shopping pour lèche-vitrine, freezer pour cerf-volant, français de vieille trace, français qui flanche. Vos papiers. J'upgrade à superstar, je swing. Un peu space dans mon timing, je suis fair-play de mon background, j'ai des feelings, fashion. On va pas tous se cracher, j'aime bien ma langue. Ce dont faut se battre pour se défendre, j'ai changé un bout de parole ici. C'est plus la même chose, comme dit la course au père Pénard. L'avenir s'en va sous le bras des États-Unis. Je suis français, moi, monsieur, je parle français. Mon papier. Mon papier. Blackout, un access airbag, box office, big bang, français de France. Standing, briefing, camping car ou mobilo, challenger, charter, check-up container, français de France, français de flashback, vos papiers. De chewing-gum, de comeback, de stock option, de pro design, de one-shot à happening, de prime time à provider, c'est le business. Le reporter en routing chair, bouche bée des débardeurs et les sex shops. N'ayons pas peur des mots, je n'ai pas dit salope. Français comme shooter, comme sponsor, comme stretching, ça vous forme une conversation, le c'est out, c'est dans les rues, dans les talk shows, United States, c'est leur flambeau. Je suis français, moi, monsieur. Je parle français. Au papier. Au papier. Au papier. Au papier.
Mouloud Aounit, président du MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
Donc expliquez-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Des hommes ont été privés de ce droit de travailler en raison d'une appartenance à une religion. Et plus précisément, on leur reproche une pratique radicale de l'islam. Et ce, on motive ce retrait du droit, soi-disant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Alors je le dis clairement, il est tout à fait légitime dans une démocratie que nous nous mobilisions contre le terrorisme. Mais cette mobilisation contre le terrorisme ne peut se faire au détriment du droit et des libertés fondamentales, sur la base de l'arbitraire et sur la base d'une discrimination en raison de leur appartenance à une religion. On ne peut accepter que le dépositaire de l'autorité publique, le préfet, participe à cette mise en acte du racisme. Nous sommes dans une situation ubuesque. Voilà des gens qu'on traite de terroristes et qu'on laisse en toute liberté. Lorsque des gens sont des dangers pour notre sécurité à tous, on ne les laisse pas en liberté. La deuxième chose, on est dans un état de droit, en droit d'attendre quand il y a une accusation aussi grave que les preuves soient apportées. Voilà des gens à qui on a retiré des badges, sans aucune explication à leur endroit. Et on vient de leur redonner sans aucune autre explication. Donc on est bien, je crois, dans la validation que les décisions qui ont été prises, ce sont des décisions politiques qui sont motivées et confirmées par l'arbitraire et un arbitraire sur le terrain de la discrimination en raison d'une appartenance à une religion et une pratique religieuse. Alors si demain, pratiquer l'islam, et je le dis en tant que laïc, est un délit, eh bien je crois qu'il faut qu'on le dise. Nous allons, pour notre part, évidemment porter plainte contre le préfet sur le terrain de la discrimination. Mais en même temps, nous allons créer un mouvement d'opinion, de solidarité et d'exigence que ces personnes recouvrent leurs droits.
Mouloud Aounit du MRAP, selon les fiches de l'UCLAT, c'est-à-dire l'Union de coordination de la lutte antiterroriste, on peut lire sur ces fiches, concernant certains bagagistes, présente une vulnérabilité incompatible avec une habilitation à l'accès en zone réservée. Alors, une vulnérabilité incompatible, c'est quand même relativement flou pour s'autoriser à priver un salarié de son emploi, même s'il travaille là depuis de nombreuses années. Et si effectivement il y a des preuves, des vraies preuves, qu'il s'agit de personnes menaçant la sécurité, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas les laisser en liberté. Ça semble, parce qu'après tout, un attentat, ça peut se faire évidemment sur un aéroport, mais ça peut se faire aussi bien dans le métro, dans le bus, absolument n'importe où, dans la rue. Alors pourquoi là et pas ailleurs? Il y a quand même des choses très, très mystérieuses. Mystère que va peut-être dissiper, mais ça va pas être facile. Maître Moutet, à la sortie du tribunal de Bobigny, Maître Moutet étant l'un des avocats des bagagistes.
Donc Maître Moutet, Éric Moutet?
Éric Moutet.
Là, on sort du tribunal de Bobigny. C'était une longue audience. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé alors?
Ben, on était là aujourd'hui pour avoir communication d'un certain nombre de documents relatifs au retrait des badges et aux accusations publiques qui ont été portées par le préfet et soutenues par le ministre à l'encontre de tous ces salariés bagagistes.
D'accord.
Les bagagistes et agents de sûreté aéroportuaires et autres salariés.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un retrait de badge à Roissy?
Il y a eu un retrait de badge massif avec une absence de motivation identique, c'est-à-dire qu'on indiquait aux gens qu'ils n'avaient pas rapporté la preuve de ce qu'ils étaient insusceptibles de nuire à la sûreté aéroportuaire. En gros, on leur demandait de rapporter la preuve de leur innocence, ce qui est impossible à faire.
Ce sont des salariés qui travaillent à Roissy qui ont besoin de ce badge parce qu'ils travaillent sur des zones qui sont réservées.
Absolument, ils travaillent sur des zones dites réservées, c'est-à-dire l'accès aux avions, le tarmac. Si vous voulez, dès que vous passez le comptoir, vous êtes en zone réservée. Et c'est lié à leur contrat de travail, c'est-à-dire que s'ils perdent le badge, sauf si l'entreprise décide de les reclasser sur d'autres secteurs non réservés, bah, ils perdent leur boulot. Tous les dossiers dont on dispose, les salariés se sont vus convoqués à des entretiens préalables au licenciement, donc on n'a même pas essayé de les reclasser.
Et il y a eu notamment un licenciement.
Il y a eu un licenciement qui a été prononcé. Et le motif invoqué est assez désuet, mais il a une validité en droit, c'est le fait du prince. C'est-à-dire que ni l'employeur ni le salarié ne sont responsables de la rupture du contrat de travail. C'est une décision administrative extérieure, donc l'employeur renvoie en réalité à la décision du préfet.
Qui délivre les badges.
Voilà, tout à fait.
Et donc là, il y avait comme suspicion, puisque pour l'instant, ce sont que des suspicions. Quelles suspicions?
On ne sait pas. On n'a rien. On a l'affirmation d'un comportement susceptible de nuire à la sûreté aéroportuaire. Là, le paradoxe, c'est que ces gens-là sont même pas incriminés sur le terrain pénal. Ils sont pas poursuivis. Mais pour autant, publiquement, on les accuse de choses extrêmement graves. Les seuls éléments factuels qu'on connaisse, c'est ceux que le préfet et soutenu par son ministre ont bien voulu livrer à la presse. C'est-à-dire les camps d'entraînement au Pakistan, liés à des entreprises terroristes, enfin des entreprises radicales, extrémistes, à visée potentiellement terroriste.
Donc là, ce matin, vous avez demandé à avoir un peu plus, enfin à voir les dossiers, et c'est ce qui s'est passé visiblement.
Voilà, ils ont même pas attendu d'avoir la décision du juge, et on a, semble-t-il, déjà quelque chose qui nous attend au bureau, sans même parler des deux salariés bagagistes qui récupèrent, eux, leur habilitation.
D'accord, bon, on va aller voir.
Donc ça y est, là, c'est la bonne nouvelle. On est sortis vite, parce qu'il y a les journalistes.
C'est ça que...
Donc toi et ton collègue, tous les deux,
Vous avez eu de la chance aujourd'hui par rapport aux autres.
On est soulagé pour l'instant et on remercie la démocratie et la justice.
Adelhamid, donc normalement tu récupères ton badge.
Normalement on récupère notre badge et on commence maintenant à commencer à travailler.
Mais vois-tu, qu'est-ce que je peux dire? Je suis content de récupérer mon badge, c'est tout.
On soit lavé, c'est tout. On veut être lavé et c'est tout.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as compris encore quelque chose ou pas? Est-ce que tu sais pourquoi tu as récupéré ton badge?
Non.
Alors voilà, évidemment, ils sont très contents. Ils ont ces deux garçons. Ces deux salariés ont retrouvé leur badge, on leur a rendu, tout d'un coup, ils m'ont dit, bon, d'accord, on vous rend leur badge. Alors c'était quand même, si on le rend aussi facilement, parce qu'on n'a pas donné d'explication. Évidemment, ils sont contents, ils vont retrouver leur boulot, mais pas d'explication. Il y avait énormément de journalistes, beaucoup d'équipes, concentration de médias autour du tribunal. Donc ça fait un peu, on va dégonfler un peu l'affaire. Ça peut être interprété comme ça, avec une pointe de mauvais esprit, bien évidemment. On rend deux badges et ça dégonfle un peu l'affaire. Et puis on va voir par la suite. Alors la suite, voilà un élément de la suite. On se retrouve avec Maître Daniel Saada, qui est l'autre avocat des bagagistes.
Alors, donc il y a à peu près deux mois et demi, ces deux personnes-là, on leur a retiré les badges.
Bah écoutez,
ils travaillaient plus, et là on leur redonne leur badge. Voilà.
Le 28 septembre 2006, le préfet a estimé qu'il présentait un risque grave significatif pour la sûreté aéroportuaire, qu'ils appartenaient à une mouvance extrémiste potentiellement terroriste, pour des motifs que nous ignorons totalement. Et aujourd'hui, 8 novembre, le préfet nous dit, tout compte fait, alors qu'il a quand même mis 18 mois pour, nous dit-il, pour avoir fait une enquête, d'accord? Eh bien, le préfet nous dit qu'il s'est trompé et leur rend leur badge, et là encore, pour des motifs que nous ignorons totalement. C'est ce qu'on appelle le fait du prince. Hein? À partir du moment où l'absence de motivation du préfet amène à s'interroger sur les réelles motivations qui ont fondé les décisions de retrait de badge, eh bien, on est obligé de mettre en relation un fait avec un autre fait. Alors, premier fait, mai 2006, l'apparition du livre de Villiers, août, les premières démarches de la préfecture pour faire les retraits de badge, et dans quelques mois, l'élection présidentielle. Et comme tout un chacun sait que Philippe de Villiers et un autre candidat potentiel à l'élection présidentielle ont l'un et l'autre des visées sur les électeurs potentiels susceptibles de voir d'un mauvais œil ce que Philippe de Villiers appelle l'islamisation rampante de la France, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'y voir une relation.
Pour parler, on n'a que de la bouche. Pour chanter, on n'a que de la bouche. Avec toi, c'est que de la bouche. Avec moi, c'est que de la bouche. L'histoire, c'est que de la bouche. La mémoire, c'est que de la bouche. Que de la bouche, on n'a que de la bouche. Que de la bouche, on n'a que de la bouche. Que de la bouche, on n'a que de la bouche. Que de la bouche, on n'a que de la bouche.
Si t'as compris qu'on a dit d'en parler, on l'a vu, c'est passé à la télé, à la radio, ils l'ont rappelé. Dans les journaux, c'est imprimé. Les bruits courent sans s'arrêter. Notre devoir c'est de rapporter, sans se lasser, face à face à improviser.
Que de la bouche on a, que de la bouche. Que de la bouche on a, que de la bouche. Que de la bouche on a, que de la bouche.
Pour parler on a que de la bouche. Pour chanter on a que de la bouche. Avec toi c'est que de la bouche. Avec moi c'est que de la bouche.
L'histoire c'est
que de la bouche.
La mémoire c'est
que de la bouche.
Aujourd'hui, là, vous êtes venu ce matin à la conférence parce que...
Pour avoir la décision, elle est négative.
C'est-à-dire ?
Que je récupérerai pas le badge. Et là, mon avocat vient de m'appeler pour avoir une date pour l'audience, pour être jugé sur le fond.
Donc en fait, c'est parce que là, le juge a dit, pour l'instant, Abdallah, on vous rend pas le badge, mais on estime que les motifs du préfet sont valables.
Sont insuffisants. Normalement, c'est positif. Je pense qu'on va l'avoir. Non, on verra ça. J'ai l'impression que plus vous avez une barbe longue et plus vous attendez.
Dites donc, si le Père Noël avait une barbe noire, comme Abdallah, je sais pas à quoi ressembleraient nos fêtes de fin d'année. Parce que les barbus, en ce moment, c'est pas très bien vu. Malheur aux barbus. Abdallah est barbu. Il travaillait à Roissy, il était bagagiste à Roissy, et on lui a enlevé son badge. On, c'est le préfet. Pourquoi ? Parce que sécurité. Procès à Bobigny. Deux ont vu leur badge ont été rendus, et Abdallah, non. Entretien entre Pascal Pascariello et Abdallah, qu'est-ce que ça fait ? Comment on vit tout ça quand on s'appelle Abdallah et qu'on a une barbe ?
Abdallah, vous me donnez le papier sur lequel on vous accuse alors de tendance à salafiste.
Mais moi, je voudrais savoir c'est quoi tendance salafiste. Moi, je connais même pas c'est quoi ça.
Parce que
soi-disant eux, un jour, je me suis rendu dans un endroit où il y a eu un rassemblement de salafistes. Faux, c'est pas vrai. Cet endroit-là, c'était lors d'une inauguration d'une mosquée. Ils avaient acheté un hangar et ils avaient invité tous les responsables de la mosquée où j'ai été. J'ai été avec mon père. Parce qu'ils avaient acheté un local, je sais pas, c'était un ancien Renault. Et là, pour me salir, ils ont mis comme quoi que je suis parti là-bas. Et regardez bien ce qui a marqué rassemblement de tendance salafiste. Il marque Argenteuil, il marque pas le lieu.
Donc ça, c'est la feuille qui a été envoyée par le préfet qui vous interdit de badge à Roissy.
Ouais, il m'a interdit de badge à Roissy. Ça, c'est les preuves qu'on attendait depuis 4 mois. Et il se fout de la gueule du monde. Ça m'énerve. Parce qu'après, il me met comme quoi que je connais quelqu'un qui est connu des services de police parce que il fait partie d'une tendance, je sais pas quoi, radicale pakistanais. Ça aussi, mais ça, c'est faux. Je connais cette personne, mais je la fréquente pas. Comme je connais tous les habitants où j'habite. C'est normal que je le connaisse. C'était mon voisin de palier. C'est normal. Il habitait dans le même immeuble que moi. Mais vous croyez qu'ils vont me le dire, ça? Ah, mais faut arrêter. C'est n'importe quoi. Je sais même pas, je vais où. Et en plus, si c'est dangereux, pourquoi ils auront donné l'accord de l'achat de la mosquée? Faut qu'ils arrêtent de jouer les hypocrites. Ils autorisent des trucs à 4 ans pour nous les reprocher 4 ans plus tard. On lui dit, voilà, en état, le comportement de monsieur Abdallah présente une vulnérabilité incompatible avec une habilitation d'accès en zone réservée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Enfin, si je suis vulnérable, c'est-à-dire mon enfant, ça sert à rien que je l'envoie à l'école. Dans 18 ans, on va lui sortir, vous connaissez votre père, on peut pas vous prendre.
Et là, vous avez combien d'enfants ?
J'en ai deux enfants.
Est-ce que vous avez peur qu'un jour, ils apprennent ce qui se passe ?
Peur, ils sont encore trop petits.
Mais en tout cas, vous voudriez pas que ça se sache dans la cité où vous habitez, parce que même nous, là, on est dans une voiture loin de la cité où vous êtes, enfin,
ouais,
du quartier.
Là, on parle pas de quelqu'un qui a sauvé des vies, là.
Vos parents, ils savent ce qui se passe en ce moment ?
Ils savent, mais ils savent pas que je suis impliqué dedans. C'est des personnes âgées. J'ai pas envie de les rendre malades. Ma femme, ça, je vais pas faire voir.
Je n'avais pas montré le papier.
Non, j'ai des accusations, non. Parce que j'ai pas envie qu'elle dort pas. Non, on se lève le soir à 4h du matin. On pense à ça, on se dit on aurait dû dire ça au procès, il y a des choses qui nous reviennent, on aurait dû dire ça. Ouais, je suis abattu. Le casier judiciaire, il est vierge à cause de ça. Ils m'ont sali. Un soi-disant intégriste qui connaît des gens qui sont intégristes. Soi-disant, c'est Luc là. Ben, si c'est ça, l'une des meilleures polices au monde. Regardez ce qu'ils nous envoient, un papier blanc.
Il n'y a rien en plus sur ce papier.
Quand, la date, où, quel moment, il n'y a rien. Ils sont forts, les renseignements généraux, ils savent qui on fréquente. Si cette personne que j'ai fréquentée m'aurait dit 2006, mais là, 98. Cette période-là, 98, je faisais de la prévention à la SNCF.
C'est-à-dire,
on circulait dans les gares et les trains pour repérer tout ce qui est colis suspect. Et pourquoi, là, on m'a pas enlevé mon travail? Pourtant, c'était l'époque où ils ont signalé là que... Quand j'étais en compagnie de cet homme-là, là. On nous reproche de traîner avec un tel, et ces personnes, ils sont dehors. Maintenant, si eux, ils sont soi-disant dangereux, qu'ils font partie des mouvements, il faut les arrêter.
Vous, ça faisait combien de temps que vous travaillez à Roissy ?
Moi, ça fait 7 ans.
Mais en 7 ans, le badge, il se renouvelle, j'imagine, plusieurs fois.
Et la dernière fois qu'il a été renouvelé, là, c'était là, il n'y a même pas 4 mois, on me l'a donné. C'est quand même bizarre, hein. Tout ça, c'est politique. Il y a 4 mois, on me l'a donné, à 6 mois des élections, on me l'enlève. Parce qu'on parle de sécurité, ça ramène des voix. Ça. Je commence à devenir parano. Il y a quelqu'un qui vient là.
Franchement, on sait même plus s'il faut lui serrer la main. On sait pas. Je suis perdu.
J'ai pas l'air de quelqu'un de dangereux.
Aujourd'hui, vous portez un jogging avec Manchester.
Ouais, comme ça. Je suis toujours habillé comme ça.
Vous êtes un fan de l'équipe de foot de Manchester?
Oui, bah, j'ai essayé d'aller avec des amis regarder un match en Angleterre. Mais là, ça me fait peur. Je préfère même pas y aller.
Là, vous allez faire quoi aujourd'hui?
Je regarde un match de foot, là.
Et demain, vous ferez quoi?
Demain, un petit match de foot. C'est ça, moi, ma vie de tous les jours, c'est ça. Je regarde le foot, je joue au foot, je vais au travail, je m'occupe de mes enfants. Une vie comme tout le monde. Ils sont en train de diaboliser l'islam. Comme quoi que tous les barbus, c'est des terroristes. Et je porte la barbe, mais peut-être c'est ça qui a fait que les recherches aussi. Robert aussi a la barbe. Mais à lui, on va rien lui dire. La barbe, c'est rien, la barbe. C'est juste un signe religieux. Ça veut pas dire que vous portez la barbe que vous êtes dangereux. Ça veut pas dire que vous portez la barbe que vous êtes bien. C'est Jésus aussi, il avait la barbe. C'est rien. Jésus, Moïse, le prophète aussi, notre prophète aussi. Ils se basent sur la barbe à cause de l'autre, là. Le 11 septembre. Tout ça pour des raisons politiques. Ils utilisent l'islam. Tout ce qu'ils mettent des bombes, tout ça. Je suis un père de famille. Vous croyez qu'une telle personne, elle va venir me dire, elle va essayer de me faire un prêche. Ouais, voilà, regarde ça, il faut faire ça. Il nous a... Non, je vais pas le suivre. Je suis pas un fou, moi, j'ai des enfants. C'est ça qui nous reproche, parce que la vulnérabilité, c'est ça. C'est-à-dire, je suis un âne. Allez, va te jeter du quin, je vais me jeter. S'ils connaissent bien la religion, c'est interdit, ça, dans l'islam. Moi, je dis que heureusement qu'il y a la religion. Ça nous empêche de faire beaucoup de conneries. Ça m'a rendu un petit peu plus calme.
Ça vous a rendu un peu plus calme, c'est-à-dire?
Avant, quand je faisais pas la prière, comme tous les jeunes, on faisait des petites bêtises à gauche, à droite.
Il y a eu un événement où vous vous êtes dit, tiens, il faut que je me...
Quand vous apprenez la mort de quelques personnes de votre entourage, ça vous met un petit choc.
C'était quoi? C'était des amis?
Ouais, c'était des amis. Ils sont morts, situation, sur accident de voiture. À cause de l'alcool, soit en course-poursuite avec les flics. Ouais, quand vous voyez une personne que vous connaissez, vous allez à la morgue, vous regardez, ça vous refroidit. On a tous peur de la mort. Hein. En plus, c'est un travail difficile, bagagiste. Et là, je suis en train de me battre pour avoir ce travail-là, parce que c'est le seul moyen, on va dire, pour vivre, quoi.
Ça a l'air, il était de combien à peu près?
Aux alentours de 1200-1500 euros, ça dépend.
Et vous, ça faisait 7 ans que vous faisiez ça, et là, ça fait combien de temps que vous n'avez pas touché votre salaire, puisque vous êtes interdit de badge, donc vous ne pouvez pas travailler, mais vous ne pouvez pas non plus toucher les acédiques.
Ça va faire 2 mois. On emprunte à gauche, à droite. Mais c'est quand même, j'ai honte d'appeler quelqu'un, lui demander, voilà, est-ce que tu as 50 euros à me prêter? Je peux pas. J'ai honte. Peut-être le jour où ça sera vraiment... le ventre, il sera vide, peut-être ce jour-là, mais là, on n'est pas arrivé à ce point-là. Parce que là, si je perds ce travail-là, où je vais travailler avec ces histoires-là? J'habite dans une banlieue, je porte la barbe, je suis musulman. Voilà, en gros, c'est ça, ma vie.
Merci à tous. C'était un reportage de Dila Tebi et Pascal Pascariello. Merci à Abdelrezak, Abdelhamid, Abdallah Mohamed. Merci à Maître Eric Moutet ainsi qu'à Maître Daniel Saadat. Merci à Mouldaouni Dumrap et Philippe de Krul de la CFDT. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission La Passe, j'y suis. Sur ce site, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Benjamin de la Gâtinais et Pierre-Yves de Roulin. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Pascariello, elle est partout, et de Christophe Imbert qui est toujours près de son répondeur à attendre vos message au 01 56 40 37 37. Réclame.